Décryptage, Marie Cazadebé.
Les Britanniques et les Néerlandais ont donné le coup d'envoi des élections européennes ce jeudi et elles s'étaleront jusqu'à dimanche soir. Si les sondages prédisent une percée des populistes, le futur Parlement ne pourrait-il pas s'annoncer aussi plus écolo? Selon des enquêtes d'opinion, les électeurs européens semblent le vouloir. Le climat est une priorité pour eux après le pouvoir d'achat et l'immigration. Et l'on a bien vu lors de cette campagne que le sujet s'est imposé dans les débats alors qu'il est souvent aux abonnés absents au moment des élections nationales. Alors le climat est-il une question européenne? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Benoît Monange.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous au studio. Vous êtes directeur de la Fondation de l'écologie politique. Vous travaillez notamment sur les liens entre écologie et questions sociales. Et nous sommes aussi au téléphone avec Daniel Bois. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche émérite au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, spécialiste de l'évolution de l'électorat écologiste. Alors toujours selon les enquêtes d'opinion réalisées à l'occasion de ces élections européennes, il apparaît, Benoît Monange, qu'une majorité des électeurs perçoivent l'environnement comme un enjeu européen. Alors est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique se joue davantage au niveau européen qu'au niveau des États membres?
Je ne sais pas si elle se joue davantage, mais l'Union européenne a un rôle majeur pour fixer les directions à suivre par les États. L'Union européenne négocie aux COP directement en tant que partie prenante. Donc oui, effectivement, c'est un acteur majeur pour renforcer la lutte contre le changement climatique.
Daniel Bois, est-ce qu'on observe par conséquent une mobilisation particulière de l'électorat écologiste au moment des élections européennes, davantage peut-être qu'aux élections nationales?
Les élections européennes, ça a toujours été la meilleure élection pour les écologistes, dans la mesure où ils savent bien, l'électorat écologiste sait bien, l'électorat en général, que l'Europe est un acteur important de l'environnement, comme ça vient d'être dit. Donc voilà, il faut rappeler qu'en 1989, donc ça date d'un certain moment, les Verts, en 1989, très peu de temps avant leur fondation, 84, avaient fait 11% aux élections européennes. Donc ça a toujours été une élection qu'ils ont privilégiée. D'abord, c'est un meilleur mode de scrutin, c'est un mode de scrutin proportionnel, hein, contrairement au mode de scrutin majoritaire à deux tours qui leur est très défavorable. Là, c'est un scrutin proportionnel. Et puis, on l'a dit, les enjeux environnementaux en Europe sont importants. L'Europe est un acteur important de l'environnement. Par conséquent, au-delà même des Verts, les électeurs intéressés par l'environnement se mobilisent davantage sur ce thème au moment de ces élections. Maintenant, la vraie question est de savoir si cette mobilisation va profiter aux Verts ou aux Verts et à d'autres partis. C'est un petit peu le problème, je pense.
Oui, Benoît, c'est vrai que les questions environnementales ont beaucoup occupé la campagne pour ces européennes, notamment en France. Ce n'était pas du tout le cas lors de la présidentielle de 2017, enfin beaucoup moins en tout cas. Alors, est-ce que c'est l'effet, justement, élection européenne, où souvent il y a un zoom fait, justement, sur les questions environnementales, ou c'est un intérêt nouveau et durable pour ces questions?
Alors, je pense que si on regarde les élections précédentes, ça a déjà été le cas dans de précédentes élections européennes. Cette importance sur les questions environnementales et climatiques, c'est peut-être aussi le fait, comme on l'a dit, que les questions environnementales sont importantes en Europe. En général, les études montrent que entre 70 et 80% du droit environnemental français est dérivé du droit communautaire, donc il y a un impact direct assez important sur ces questions-là. Et on peut imaginer que les électeurs s'en aperçoivent et que de la même manière, dans leur programme, les différents partis, étant donné qu'on peut penser qu'ils accordent leur programme aussi avec les compétences européennes, se saisissent aussi de ces questions plus fortement que ce qu'ils pourraient le faire au niveau des élections nationales.
Alors d'où vient l'importance des questions environnementales à Bruxelles? Est-ce qu'il y a un historique? Pourquoi finalement la question est plus sensible à ce niveau-là qu'au niveau des États membres, on a l'impression, même vous allez dire si je me trompe, mais que l'Union européenne est plus rapide, plus en pointe.
Plus rapide, je ne sais pas, plus rapide que la France, c'est sans doute vrai, mais c'est sans doute aussi le fait qu'au niveau de l'Union européenne, des pays qui étaient peut-être plus avancés que nous ont permis de faire en sorte qu'au moment de la construction de l'européenne, ces questions soient mises plus sur le devant de la scène. Et puis... Je pense que il y a, enfin, si on regarde l'historique, si vous voulez, au départ, c'était pas du tout une compétence européenne. Hein. L'environnement, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, qui n'était pas présent au départ et qui arrivait à la fois avec la construction du marché commun. On a voulu mettre, on a voulu faire en sorte que les compétences environnementales permettent plus facilement le libre-échange entre les pays, et il y avait besoin de cette compétence environnementale qui s'est construite au fur et à mesure. Oui.
Alors, parmi les avancées du Parlement européen sortant, il y a l'interdiction, par exemple, des objets plastiques jetables d'ici 2021. Le texte comprend les mégots de cigarettes et donne la part belle au principe de pollueur-payeur. L'eurodéputé belge Frédéric Ries en est le rapporteur.
Nous avons maintenu, et ce ne fut pas facile, le régime de responsabilité élargie du producteur. Nous avons obtenu que les fabricants de tabac, pour citer ceux-là, aient l'obligation de financer la collecte, la dépollution et le recyclage des mégots, et ceci dès janvier 2023. C'est un an plus tôt que les autres producteurs.
Alors, au-delà de cette interdiction des objets plastiques jetables, Daniel Bois, qu'est-ce que vous retiendrez des grandes avancées environnementales du Parlement sortant ?
Il y en a beaucoup, hein. Ça a été cité, mais il y a Natura 2000, il y a le paquet énergie-climat, donc il y a beaucoup de choses qui sont assez visibles et quelquefois qui ont créé des sortes de conflits, puisque les directives européennes ne sont pas toujours transposées suffisamment vite du point de vue de la Commission européenne. Et on sait bien que, par exemple, sur l'air et sur l'eau, il y a eu des conflits, en tout cas des tirages importants. Et je pense que le public en a entendu parler. Et on a conclu qu'effectivement, là, c'est bien l'Europe qui était en avance sur la France quand il s'agissait de la qualité de l'air ou de la qualité de l'eau.
Benoît Monange, les électeurs européens renouvellent en ce moment, donc d'ici la fin de la semaine, leur Parlement. Quel est le poids du Parlement européen par rapport aux autres organes européens, par rapport au Conseil européen, donc qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, ou la Commission européenne, l'équivalent du gouvernement européen? Est-ce que le Parlement sait se faire entendre et, voilà, est-ce qu'il a un poids particulier justement sur les questions environnementales?
Alors il a un poids important, mais c'est juste une pièce du puzzle institutionnel, hein, dans le schéma de prise de décision européenne. Mais il a un poids qui se trouve renforcé, qui s'est renforcé au fur et à mesure des années, qui s'est renforcé avec l'acte unique et puis avec les différents traités qu'on suivit, que ce soit Maastricht, Lisbonne, etc. On voit que le poids institutionnel du Parlement a toujours été renforcé, donc il a un poids de plus en plus important sur ces questions-là. D'où l'importance, je dirais, de pouvoir lui donner, pour les électeurs en tout cas qui voudraient plus d'avancées écologistes en Europe, d'avoir des forces écologistes les plus importantes possibles au Parlement si on veut faire avancer ces questions-là.
On l'a vu d'ailleurs peut-être durant cette législature, avoir peut-être une longueur d'avance sur la Commission et le Conseil. Je pense à l'interdiction de la pêche électrique d'ici 2021. Là aussi, c'est le Parlement qui a poussé à cette prise de décision.
Le Parlement a eu effectivement un rôle majeur, mais il a eu aussi un rôle important du fait aussi du poids de la société civile et du fait des actions très importantes des ONG qui ont trouvé une caisse de résonance dans le Parlement européen qu'ils ne trouvaient peut-être pas au sein de la Commission ou du Conseil de l'Union européenne. Et donc ça a permis effectivement de renforcer leur action. Donc on pense notamment à l'ONG Bloom qui a beaucoup milité sur cette question-là et qui a trouvé des relais au sein du Parlement européen qu'ils ne trouvaient peut-être pas dans d'autres institutions européennes, effectivement.
Alors, on se souvient malgré tout des larmes de Greta Thunberg, la jeune Suédoise, devant les eurodéputés mi-avril. Elle n'est pas la seule à reprocher à l'Union européenne de ne pas aller assez loin. L'urgence écologique et l'impatience sont là aussi beaucoup ressenties dans les marches pour le climat, comme à Paris, le 16 avril.
Ça se sent dans l'air qu'on respire, dans tous les morts qui disparaissent tous les ans, 450 000 en France, avec la pollution. Et puis, le réchauffement climatique, c'est aussi le niveau des mers qui monte, la biodiversité qui s'effondre, et nous, avec des paroles, mais pas d'actes, alors que M. Macron dit qu'il faut passer à l'action, mais on se demande ce qu'il attend.
Il faut se dépêcher, il faut mettre des sous, il faut agir. Depuis la COP21, ça fait 4 ans, on n'a rien fait. Les émissions sont toujours les mêmes, il faut absolument bouger. Et il n'y a pas une conscience politique qui est là. Donc il faut que la société civile, que les ONG, que les étudiants, que les lycéens, eh bien, ils se manifestent parce que c'est leur futur qui est en jeu.
Beaucoup d'attentes sur les questions écologiques, avec un refrain depuis plusieurs mois, les choses ne vont pas assez vite. Et on se souvient notamment du vote sur le glyphosate en 2017. L'autorisation renouvelée à ce pesticide pour 5 ans, l'Union européenne était apparue plus timide, même que certains États membres. Daniel Bois, quels sont les principaux freins à Bruxelles pour aller plus vite encore sur la question environnementale ?
Oh, Bruxelles, c'est une grosse machine quand même, hein. C'est une grosse machine compliquée, donc l'élaboration d'une directive, c'est très long. Et puis, alors bien sûr, il y a le pouvoir des lobbies, on parle toujours du pouvoir des lobbies, c'est vrai qu'ils sont très nombreux à Bruxelles, c'est très organisé, et il n'y a pas de doute qu'ils ont un poids important dans l'élaboration des directives, hein. Ils sont officiellement là, ils ne sont pas cachés, ils sont bien là officiellement, mais ils sont nombreux, ils sont puissants, parce que les lobbies savent bien que beaucoup de décisions absolument cruciales pour l'économie se prennent à Bruxelles, notamment ces décisions sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens, etc. Et donc voilà, il y a des arrangements à trouver, je dirais, et c'est pas toujours facile, entre une volonté européenne de réguler l'environnement et des lobbies qui freinent sans aucun doute chaque fois qu'ils peuvent. On l'a vu au moment de la régulation des produits chimiques avec REACH. Voilà, il n'y a pas de doute que les lobbies sont bien là, c'est pas une légende. Encore une fois, ils ne sont pas cachés, ils ont un rôle explicite à Bruxelles. Il n'y a pas que le lobby des industriels, il y a aussi le lobby des ONG, bien sûr, il existe. Hein.
Et alors, ces lobbies sont bien plus présents, bien plus nombreux que dans les couloirs des assemblées nationales.
Sans doute, difficile de faire le comptage, mais envoyer un lobby, agir à Bruxelles est peut-être plus efficace que d'agir dans son propre pays, parce que on agit sur une surface plus large et que les produits, qu'il s'agisse de pesticides et d'autres, ils sont pas réservés à la France, ils sont effectivement pour tout un marché européen. Par conséquent, en essayant d'agir à Bruxelles, on essaye, selon on branche du côté des industriels ou des ONG, d'influencer le processus là où il aura les plus grandes conséquences en Europe.
Monange, on parle du poids des lobbies à Bruxelles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette fameuse recherche du compromis qui est vraiment l'essence même de la prise de décision au sein des instances européennes, notamment du Parlement, qui fait que peut-être les textes sont un peu édulcorés après des débats longs et la recherche d'un consensus?
Alors, je ne sais pas si ça vient uniquement de la recherche du consensus, mais on parlait du poids des lobbies qui est très important. On l'a dit, juste pour rappeler une petite anecdote comme ça. En septembre dernier, le site Euractiv avait révélé un mémo qui avait été diffusé en interne au sein de Business Europe, qui est un peu l'équivalent, pour dire vite, du MEDEF européen, donc l'association qui réunit les grandes entreprises européennes. Et le mémo, en fait, révélait qu'il y avait toute une stratégie au sein de Business Europe pour freiner les ambitions climatiques de l'Union européenne, alors que le discours officiel de Business Europe était de dire que les entreprises allaient accompagner cette recherche de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et on s'apercevait que derrière la façade, en fait, il y avait une véritable volonté de freiner les actions européennes dans ce domaine-là. Et on parlait de la recherche du consensus, mais il y a à la fois le poids des lobbies et il y a aussi le poids des États et des intérêts nationaux. Chaque État a un peu ses propres intérêts, que ce soit l'industrie automobile en Allemagne, que ce soit le poids du secteur agricole en France, par exemple, qui freine un certain nombre d'avancées parce que les intérêts nationaux réapparaissent dans ce processus de décision et peuvent peser fortement sur les avancées qui sont recherchées parfois par le Parlement ou la Commission.
Oui, Daniel Bois, l'Union européenne compte encore 28 États, 28 pays qui ne connaissent pas forcément la même situation économique. C'est ça qui explique la difficulté de se mettre d'accord sur des mesures qui n'arrivent pas forcément au même moment du développement des États membres.
Sûrement, on le voit d'ailleurs en regardant les progrès de l'écologie politique dans l'ensemble des 28 pays. On voit bien qu'il y a des pays où l'écologie est en retard et quelquefois inexistante, qui sont les pays du sud de l'Europe, hein, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, où elle est à des niveaux très très bas, et de même dans les pays de l'Est. Donc alors, il y a des tas d'explications, on peut donner des explications culturelles ou autres, mais la bonne vieille explication économique elle tient quand même la route. Je veux dire qu'il y a là des pays qui sont en recherche de croissance et pour lesquels les enjeux environnementaux ne sont pas premiers dans la société. C'est peut-être triste à dire, mais c'est comme ça. Il y a probablement perçu, peut-être à tort, mais perçu une contradiction entre le progrès économique et le progrès écologique, bien que les écolos fassent tout ce qu'ils peuvent pour expliquer qu'on peut avoir une croissance, mais une bonne croissance. croissance, une croissance verte. Bon, c'est un discours qui ne passe pas toujours. Donc, c'est difficile de plaider la décroissance, parce que c'est un mot qui fait mal en général, surtout dans les pays où la croissance est très faible, le chômage très élevé, du style Espagne ou Grèce.
Benoît Monange, la Commission européenne vise la neutralité carbone en 2050. Le Conseil européen et le futur Parlement doivent encore se prononcer. Ça va être un sacré débat à venir. On parlait des pays du Sud, peut-être plus réticents à changer leur mode de croissance. Quel pays aurait tendance à freiner la mise en place de ce genre d'objectif, la neutralité carbone en 2050? Parce que là aussi, ça dépend évidemment des énergies utilisées par les États membres.
Alors effectivement, il y a des États qui en sont très loin. On pense régulièrement à l'exemple, par exemple, de la Pologne, où l'industrie du charbon est très importante à la fois au niveau économique et au niveau social. Et donc, on imagine que ça soit beaucoup plus difficile d'exiger ces baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on regarde vraiment dans l'ensemble, il y a en fait assez peu de pays qui soient vraiment leaders sur la question et qui soient vraiment en pointe. Si on regarde l'ensemble des pays qui sont partie prenante de consigner l'accord de Paris à la COP21, on considère qu'il y a 22 pays, je crois, qui sont sur la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre pour arriver au 1,5°. Il n'y en a pas un seul dans les 28 pays de l'Union européenne. Donc pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire en fonction des politiques actuelles des pays européens sur une trajectoire de 3°, 3,5°. Donc les efforts à faire sont considérables. Et le problème, mais pas tant, si vous voulez, l'objectif de 2050, de neutralité carbone à 2050, est un objectif qui est assez éloigné. La question, elle va être sur les différentes étapes pour y arriver et quel objectif on se met pour 2030, pour 2040. Et c'est en fonction de ces trajectoires que les efforts vont être plus ou moins importants à effectuer. Et plus les étapes intermédiaires seront ambitieuses, plus on pourra espérer arriver effectivement à cette neutralité carbone en 2050.
Alors même si une directive donc est votée, pour qu'elle s'applique dans un État membre, il faut qu'elle soit transposée en droit national. Daniel Bois, est-ce que c'est pas à ce niveau-là aussi que peuvent se faire ressentir les réticences nationales?
Oui, sans doute. La transposition, c'est toujours assez douloureux, assez lent. Il y a plein d'exemples. Les directives sur l'eau et sur l'air, par exemple, en France, ça prend beaucoup de temps à être transposé, ça prend beaucoup de temps ensuite à être appliqué. Donc il y a probablement une espèce de freinage parce que c'est complexe. C'est complexe techniquement, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a une complexité technique et puis il y a peut-être quelquefois des grosses pesanteurs sociologiques qui font que, entre la directive qui sort et la transposition et l'application, va se passer pas mal de temps et pas mal de pertes de temps en réalité par rapport à l'objectif d'avancer sur ce thème de l'environnement.
Alors si on en revient à ces élections européennes, Benoît Monange, pour conclure, certains sondages prédisent quelques sièges de plus au groupe écologiste dans le futur Parlement. Ils étaient 52 sur près de 750 sièges dans le Parlement sortant. Mais on a observé, comme on le disait lors de cette campagne, que finalement les questions écologistes n'étaient plus l'apanage des partis écologistes. Alors il y a des partis de droite, de gauche, des partis centristes qui se sont vraiment emparés de ces questions-là aussi parce que c'est un intérêt pour la population. Est-ce que du coup le futur Parlement s'annonce plus sensible à ces problématiques ?
Plus sensible, on l'espère. Il y a vraiment une question de décalage à regarder entre les paroles, les programmes et après les actes au sein du Parlement. Ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est qu'il y avait déjà des programmes des différents partis qui pouvaient s'avérer plus ou moins ambitieux sur les questions environnementales, mais après, une fois arrivé au Parlement européen, c'était plus forcément la priorité première de tous les groupes. Ça restait toujours une priorité importante pour le groupe écologiste. Parce que forcément c'est sa nature et c'est normal qu'il s'intéresse à ces questions-là. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez important à voir, c'est le fait que les partis au Parlement européen puissent être en phase avec la politique que mène leur parti au niveau national. Si vous avez un programme européen qui est très axé sur les questions environnementales et climatiques, mais qu'en même temps votre parti et vos députés nationaux votent des décisions complètement contraires, ça n'aura pas beaucoup de sens et ça permettra pas beaucoup d'avancer.
Réponse donc dimanche soir pour le visage de ce futur Parlement européen. Merci Daniel Bois du CVPOF et merci Benoît Monange de la Fondation de l'écologie politique. Tout de suite, un nouveau journal.